Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici un sujet d'Audrey Scavinet.
Nous avons l'habitude dans notre société occidentale de penser de façon très rationnelle, voire rationnelle à l'extrême. C'est d'ailleurs très rationnellement que nous dominons actuellement la nature et tout ce qu'elle contient, puisque selon nous, la pauvre n'est pas consciente. Or, il n'en est pas ainsi partout sur la planète. Chez les peuples indigènes d'Australie, d'Arctique et d'Amazonie, nous trouvons encore des pratiques chamaniques ainsi qu'une toute autre conception de la nature. Mais au fait, qu'est-ce que le chamanisme ? Jérémy Narby, anthropologue spécialiste de la question et auteur de nombreux livres à ce sujet, répond aux questions d'Audrey Scavinet.
Oh, c'est un phénomène notoirement difficile à définir. Je pense que ce qu'on a appris au cours du XXe siècle, c'est qu'il faudrait déjà parler de chamanisme au pluriel. C'est aussi, d'un point de vue occidental, assez difficile à définir parce que pendant de longs siècles, l'Occident a eu une approche relativement négative de ce qu'on appelle chamanisme. Pour preuve, la première vraie définition du mot « chaman » dans une langue européenne a été formulée par Diderot en 1765. Chaman est un mot d'origine tungouse, donc de la Sibérie orientale. Ce mot est arrivé en français via le russe et l'allemand. Et c'est Diderot et ses collègues dans leur encyclopédie qui ont fourni la première définition. Et le chaman était un imposteur qui prétendait avoir de la communication avec le diable, mais qui trompait un peuple superstitieux et imbécile. Voilà la première définition donnée d'un chaman. Le chamanisme, c'est encore un autre problème parce qu'on accole un isme comme s'il s'agissait d'une sorte de religion comme le christianisme, d'une idéologie comme le communisme, mais il n'y a jamais eu de isme dans le sens qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas ce qui va habituellement avec les ismes de ce genre-là. Ensuite, la définition du chaman a évolué avec le regard occidental. Pendant longtemps, on a considéré les chamans non pas comme des imposteurs ni comme des ministres du diable, mais comme des schizophrènes. Et c'est seulement au cours du XXe siècle qu'on s'est rendu compte que ces praticiens que l'on retrouve un peu partout autour du monde, bon, ils ont des pratiques, ils travaillent avec des états de transe, ils travaillent avec de la musique, ils disent pouvoir communiquer avec les esprits de la nature au nom de la communauté. Voilà une définition neutre donnée par l'anthropologue Alfred Metro en 1944.
Le chaman serait donc un individu qui, par profession et dans l'intérêt de sa communauté, entretient un commerce intermittent avec les esprits de la nature. Voilà qui a de quoi surprendre. Et pourtant, Jérémy Narby est un anthropologue qui travaille depuis maintenant 30 ans avec les peuples indigènes d'Amazonie. Dans ses débuts, et naturellement intrigué par l'immense savoir des peuples indigènes, il a simplement posé à chacune des tribus qu'il a rencontrées la question suivante. Et vous, comment est-ce que vous savez ce que vous savez à propos des plantes ?
En Amazonie occidentale, où je faisais ma recherche, la réponse que ces gens-là donnaient à cette question était assez invariable. Ils disaient qu'ils avaient des spécialistes, des ayahuasqueros, tabaqueros, des chamans, autrement dit, qui travaillaient avec des plantes psychoactives ou des mixtures de plantes telles que l'ayahuasca ou le tabac, et que ces plantes les mettaient dans des états de transe où ils percevaient des entités ou des essences ou des esprits qui sont communs à l'ensemble des êtres vivants et qui sont des sources d'information. Alors ils disaient que dans leur vision, dans leurs états modifiés de conscience ou dans ce que nous appellerions leurs hallucinations, ils trouvaient de l'information vérifiable en provenance des autres espèces. Comme si dans un état modifié de conscience, nous étions capables de surmonter la barrière de communication qui nous sépare avec les autres espèces et à pouvoir comprendre leur point de vue. Et c'est ainsi, disaient-ils, qu'ils apprenaient à connaître les propriétés des plantes et ainsi de suite. Alors, il y avait plusieurs problèmes avec tout cela. D'abord, du point de vue du savoir occidental, c'est une sorte d'impossibilité épistémologique. Ça veut dire, selon nos définitions, considérer qu'il y a de l'information vérifiable dans des hallucinations, c'est la définition de la psychose. Donc, ça ne peut pas être vrai, d'abord. La deuxième difficulté, c'est que malgré ce que je viens de dire, vous pouvez en faire l'expérience. C'est-à-dire qu'il est quand même possible d'ingurgiter ces plantes au point d'avoir soi-même des visions et ensuite de commencer à voir ce à quoi se réfèrent les indigènes quand ils disent tout ça. Et ce qui est troublant, c'est que je suis de loin pas seul à avoir fait l'expérience de ces plantes pour constater qu'il y a certainement une sorte de maelstrom d'informations et d'images et de tout un monde. On n'arrête pas de remplir des livres avec ce que différents êtres humains ont pu aller constater à ce niveau-là de la conscience modifiée.
L'origine du savoir des peuples indigènes viendrait donc des plantes elles-mêmes, savoir qu'elles transmettent aux chamans dans des états modifiés de conscience. C'est pas vraiment le genre d'information que l'on entend tous les jours au JT. Nous qui pensons tout savoir et tout connaître sur le monde grâce à la science. Et pourtant, encore une fois, les peuples indigènes élaborent des mixtures de plantes tellement complexes que ça peut laisser perplexe. Alors monsieur Narbi, hasard ou magie ?
La théorie du hasard pour expliquer la sophistication de certaines recettes botaniques des peuples indigènes amazoniens a vraiment du plomb dans l'aile. Lorsqu'on sait à quel point il y a une diversité de plantes, on est devant au moins 80 000 espèces de plantes supérieures, mais certaines estimations vont jusqu'au double. En fait, on ne sait même pas combien il y a d'espèces de plantes dans cette forêt. Prenons au bas mot 80 000 espèces de plantes. Lorsque vous avez une combinaison nécessaire de deux de ces plantes, vous avez une chance sur 6 milliards 4 de tomber sur la solution. Donc en fait, il faudrait juste être assis pendant des centaines de milliers d'années à mettre des plantes dans le pot, à les cuire ensemble et à les tester. Ça ne tient juste pas debout. Ça, c'est déjà la première chose. Le curare est un exemple. Ce poison de chasse amazonien, qui est un mélange nécessaire de plusieurs plantes. La mixture émet des vapeurs parfumées mais mortelles pendant les 24 heures qu'on doit cuire ces plantes ensemble. Et le résultat final ne marche que par voie intraveineuse. Donc, trouver le curare par hasard paraît à peu près impossible. Et d'ailleurs, la deuxième chose, lorsqu'on parle avec ces peuples, ils ne disent pas « nous nous sommes assis pendant des millénaires à essayer des choses au hasard ». Ils disent « nous avons différentes façons d'investiguer les propriétés des plantes ». Et une de ces façons, ou la principale façon, c'est à travers des états de transe et dans la modification de conscience. Or, quand on sait que cette notion-là contredit nos a priori, c'en est que plus intéressant. Ce serait une raison de plus de prendre au pied de la lettre ce que ces gens disent et le vérifier. S'ils disent que leur savoir vient de là, la moindre des choses serait de regarder ça avec eux. Pour l'instant, ça n'a pas été fait puisqu'il y a ce blocage épistémologique. Et voilà, donc on est dans une situation où ça reste mystérieux et difficile à vérifier.
Il semblerait bien que notre vision occidentale de la nature souffre de quelques carences. L'essentiel des problèmes que nous rencontrons viennent certainement du fait que nous avons coupé le lien. Et peut-être que poser un autre regard sur le monde, un regard réenchanté, suffirait pour basculer d'une société de la consommation à une société de la réconciliation. Le chamanisme, encore pratiqué dans toutes les cultures dites indigènes ou primitives, serait donc cet ensemble de connaissances qu'il conviendrait de revisiter dans l'intérêt de toutes les communautés.
C'était un sujet réalisé par Audrey Scavinet.